Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 9. Alors, la semaine dernière, c'était un dimanche un peu spécial. On avait la visite de nos amis de Besançon, de la région parisienne, de Montélimar. Et on a fait une petite excursion, on est sorti de Romains. On a vu un passage en Jean. Mais la semaine d'avant, on a commencé cette nouvelle section dans Romains, cette section qui part du chapitre 9 et qui va jusqu'à la fin du chapitre 11 et qui se termine avec cette doxologie, c'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans les siècles. Amen. Et l'une des choses que ces chapitres vont faire, ces chapitres 9, 10 et 11, alors que la place du peuple juif dans le dessein de Dieu occupe une grande partie, mais une des choses que ces chapitres vont nous faire, c'est de souligner que tout n'est pas au sujet de moi, mais que tout est au sujet de Christ. C'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Et on ne devrait pas donc être surpris s'il y a des enseignements dans ces chapitres qui, émotionnellement, mentalement, intérieurement, vont nous amener à nous prosterner devant Dieu, ce Dieu de gloire, en proclamant cette doxologie, parce que c'est là que l'apôtre Paul veut nous amener. Paul a terminé le chapitre 8 sur un sommet, et on a vu la dernière fois qu'il parle de cette grande tristesse, de son chagrin continuel, dont il parle dans les premiers versets. Et maintenant, il continue au verset 6, et nous allons lire ce passage jusqu'au verset 13, et c'est la parole de Dieu. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et jusque-là, la parole de Dieu. Lorsqu'on devient chrétien, la parole de Dieu ne reste plus un simple livre, mais elle devient une voix. Il n'est plus simplement question de lire la parole de Dieu, mais la parole nous parle. Elle nous parle et on y trouve des promesses. Et on a lu tout à l'heure une promesse en Ésaïe 55, le verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas, point à moi. » Sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Une parole très encourageante. La parole de Dieu ne retournera toujours à lui après avoir exécuté sa volonté, après avoir accompli ses desseins. Elle ne retournera jamais à Dieu sans effet. Mais c'est exactement le problème auquel l'apôtre Paul doit faire face. Parce que tout ce qu'il peut voir semble lui dire que les promesses de Dieu ont été annulées. Paul est un juif converti. Il est devenu chrétien par la grâce de Dieu. Et il se retrouve dans les synagogues pour prêcher l'évangile, pour démontrer que Jésus-Christ est le Messie promis. Mais ceux à qui Dieu avait donné les promesses dans le passé sont les mêmes qui maintenant rejette l'accomplissement de ses promesses en Jésus-Christ. Et Paul se pose la question, parce que c'est quelqu'un d'honnête, c'est un étudiant honnête de la parole de Dieu. Quand il voit que les promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël ne semblent pas être accomplies. Il se pose la question, mais est-ce que la parole de Dieu a failli? Est-ce qu'elle est sans effet? Et ce n'est pas une question sans intérêt pour Paul, parce que, bien sûr, il s'agissait de ses compatriotes. Paul connaissait sa parole. Il savait que la promesse faite, que Dieu avait faite à Abraham était une promesse perpétuelle. La promesse de Dieu à Abraham n'échouera jamais pour toute l'éternité, qu'il serait le Dieu d'Abraham et le Dieu de la postérité d'Abraham. Et alors que Paul ressent le poids de tout l'Ancien Testament, que Dieu s'est engagé de manière irrévocable envers la postérité d'Abraham, Paul trouve, alors qu'il annonce l'Évangile, il voit que la descendance naturelle d'Abraham rejette cet Évangile. Et Paul a le cœur brisé, on l'a vu la dernière fois. Paul n'est pas un théologien insensible qui vit dans sa tour d'ivoire en se disant « Oh, le problème, il va se régler tout seul ». Non, Paul est réellement attristé. Il connaît un chagrin continuel et c'est de ce chagrin continuel, ce chagrin de cœur, ce brisement de cœur, que s'élève cette question. Et cette question s'élève de manière tellement claire que Paul y répond avant même de l'avoir posée. La question est, est-ce que la parole de Dieu a échoué? Est-ce que la parole de Dieu a failli? C'est une question importante pour nous, surtout après avoir lu Romains chapitre 8. Parce qu'en Romains 8, Paul nous a amené à ce point que quand Dieu nous donne sa promesse, rien ne peut nous séparer de son amour en Jésus-Christ. Paul nous a amené à poser toutes les questions. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et nous a amené à celui qui tient ses promesses, à Dieu lui-même. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais la question que pose Paul est une question importante pour nous. Parce que si Dieu n'a pas gardé les promesses faites à Israël, comment est-ce que l'on peut être sûr qu'il gardera les promesses qu'il fait à nous? Paul voit ceux qui l'entourent, une majorité de ses compatriotes qui rejettent l'Évangile. Et il voit la promesse de Dieu d'être toujours le Dieu d'Abraham et le Dieu de sa postérité. Il pose la question, mais est-ce que la parole de Dieu a-t-elle failli? Si elle a failli par rapport au peuple que Dieu s'était choisi dans le passé, on n'a aucune certitude que la parole de Dieu reste sûre pour nous. C'est donc une question importante. Et alors que Paul va parler du peuple juif dans le dessein de Dieu, nous devons garder en tête qu'il y a aussi quelque chose pour nous, que nous devons apprendre au sujet du Dieu de la parole. Paul veut nous apprendre à mieux connaître ce Dieu qui fait, qui donne des promesses, mais aussi qui garde ses promesses. Et on va suivre le raisonnement de Paul dans ces versets. Tout d'abord, donc au début du verset 6, Paul répond à une question qu'il n'a pas posée. Elle est tellement claire dans sa tête qu'il répond déjà à la question. Ensuite, versets 6 et 7, Paul va nous donner une explication de sa réponse. Ensuite, le verset 7 au verset 13, il nous donne deux illustrations qui montrent la validité de sa réponse. Et en débordant légèrement, il va déjà, au verset 14, soulever une objection très répandue. Donc, premier point, la réponse de l'apôtre Paul. Comme j'ai dit, la question est tellement claire dans sa tête. La parole de Dieu a-t-elle failli? Que Paul répond immédiatement. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. On parle aujourd'hui d'une génération qui est connectée, mais c'est comme si l'apôtre Paul avait des connexions bibliques qui l'amènent directement vers la bonne réponse. La parole de Dieu a-t-elle failli? Non! Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et en fait, pour souligner cela, le premier mot dans l'original, c'est le mot « non », c'est le mot « point ». Ce n'est pas une manière habituelle de commencer une phrase. Mais Paul se parle à lui-même et il parle aussi à ceux qui disent « Voyez, la parole de Dieu a failli à ses promesses. » L'évangile ne peut pas être vrai. Mais Paul répond de manière instinctive, non. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et en fait, Paul rejoint cette promesse que nous avons lue en Ésaïe 55, verset 11. Que la parole de Dieu ne retournera jamais, ne retourne point sans effet. Mais c'est une chose de donner une réponse de façon instinctive. C'en est une autre de dire pourquoi une telle chose ne peut pas être vraie. Pourquoi la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Paul va passer rapidement de cette réponse instinctive à une explication théologique. Et on passe tout de suite au deuxième point. L'explication de sa réponse dans les versets 6 et 7. Deuxième partie du verset 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas, n'appartiennent pas à l'Israël de Dieu. Et on a là une réponse en une seule phrase, une super réponse au problème. Il y a les Juifs qui croient, il y a les Juifs qui rejettent l'Évangile. Comment se fait-il que la promesse de Dieu à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui est ensuite appelé Israël, comment est-ce que cette promesse tient toujours? La réponse est simple, parmi les descendants d'Israël, certains n'appartiennent pas à Israël, ils ne croient pas, d'autres, oui. Donc la promesse de Dieu tient toujours, une réponse simple qui résout le problème. Mais sur quelle base Paul peut-il affirmer ces choses? Paul affirme sur la base de l'Écriture, sur la base de la parole de Dieu. Et il va le souligner, si la foi d'Abraham ne coule pas dans nos cœurs, alors le sang d'Abraham qui coule dans nos veines ne sera d'aucun avantage pour nous. Mais on a quelque chose d'assez étonnant ici, parce qu'à ce stade, Paul ne fait que répéter ce que l'Ancien Testament dit. Paul ne fait que répéter ce que l'Ancien Testament dit. Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est une chose d'être circoncis dans la chair, de faire partie de la nation. C'en est une autre d'être circoncis du cœur, ce que Dieu a promis de faire par la puissance de son Saint-Esprit. Ou Jean-Baptiste, en Matthieu 3, verset 9, dit « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Ou le Seigneur Jésus-Christ, en Jean chapitre 8, « Je sais, verset 37, que vous êtes la postérité d'Abraham. Vous avez les gènes, vous pourriez me dessiner votre arbre généalogique. » Mais il dit au verset 39, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et puis plus terriblement, au verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Donc Paul nous donne une explication de sa réponse. Que la parole de Dieu ne reste pas sans effet, qu'elle ne faille pas. Il ne se tient pas tout seul. Il se tient sur les épaules des prophètes, sur les épaules de Jean-Baptiste, sur les épaules du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ce que les autres disent. Et Paul veut souligner ceci. Tous ceux qui sont naturellement les descendants d'Israël n'appartiennent pas tous à l'Israël de Dieu. Parce que le dessein souverain de Dieu dans l'élection d'un peuple a été à l'œuvre dès que Dieu a donné sa promesse à Abraham. Et c'est vers quoi Paul se tourne dans les versets 7 à 12 pour nous donner son argumentation biblique, ses deux illustrations pour démontrer la validité de sa réponse. Et c'est le troisième point, l'argumentation de l'apôtre Paul. Dans le verset 7, Paul cite Genèse 21. « Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » On se rappelle que Dieu avait dit à Abraham, en Genèse 12 par exemple, quand il l'appelle, il lui dit « Je ferai de toi une grande nation, mais le peuple sera appelé du nom d'un seul des fils, et pas de l'autre. C'est d'Isaac, Genèse 21, verset 12, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et Paul le redit ici, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Cette promesse que Dieu a donnée est une promesse que Dieu garde. Parce que lorsqu'il donne cette promesse à Abraham, il fait déjà la différence entre la postérité d'Abraham. On l'a lu, Abraham avait un premier fils, Ismaël, né de la servante Agar. Quand Abraham et Sarah, dans leur faiblesse, ont cherché à accomplir la promesse de Dieu par leurs propres moyens. Mais Dieu a ensuite donné à Abraham le fils de la promesse, Isaac. Et c'est en Isaac, Dieu dit, que tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est en Isaac que les nations seront bénies. Alors certains vont dire qu'il y a une explication évidente. Dieu décide que ce serait en Isaac et non en Ismaël, parce que la mère d'Ismaël était égyptienne, parce qu'elle était esclave, parce qu'Ismaël était illégitime, et qu'Ismaël s'est moqué d'Isaac. Et quelque part, ce serait logique. Oui, je sais pourquoi Dieu agit de cette façon, parce qu'on peut voir qu'Ismaël ne serait jamais l'élu, celui que Dieu choisira parce qu'il était illégitime. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. Dieu ne limite pas ses desseins à ceux qui sont nés de façon légitime. Dieu n'exclut pas les enfants à cause de ce que leurs mères ont été. On ne doit pas commettre cette erreur. Ah, je comprends pourquoi Dieu agit de telle façon. C'est à cause de ce qu'on voit chez Ismaël. Et pour appuyer ce point, Paul va utiliser une autre illustration de la génération suivante. Il parle de Jacob et Ésaü. Paul dit au verset 10 et 12, la situation est différente. Dieu accomplissait son dessein non seulement par Abraham et par Sarah, mais aussi par Isaac et Rebecca. Verset 10, de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants, Jacob et Ésaü, n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et qu'est-ce qui est différent ici? Ces garçons avaient le même père, mais ils avaient aussi la même mère. Et en plus, ils étaient jumeaux. Et pour appuyer le point encore plus, Paul souligne, ils n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Paul ne dit pas qu'ils n'avaient fait aucun mal, mais qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal. Et il précise, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul veut dire que l'élection souveraine de Dieu n'a rien à faire avec ce qu'on peut voir chez ces deux garçons. Il faut comprendre cela pour voir la merveille de l'Évangile, le choix de Dieu pour Jacob et non pour Ésaü. N'a rien à faire avec les qualités que Dieu a vues d'avance chez Jacob et Ésaü. Et pour démontrer cela, Dieu va renverser l'ordre naturel des choses. Il montre par là que ce qu'il était en train de faire ici, c'était de poursuivre le dessein de son élection absolument souveraine. Le choix ne s'est pas fait sur la base de l'éducation parentale, ou de l'hérédité, ou sur la base de ce que les enfants ont fait en mal, ou plus étonnant encore, de ce qu'ils ont fait en bien, ou de ce qu'ils pourraient faire. Non, le choix s'est fait par la seule volonté souveraine de celui qui a décidé de se former un peuple pour sa gloire. Et le point que l'apôtre Paul fait ici, c'est que lorsqu'il dit « tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël », c'est que ceci n'est pas une nouveauté. C'est ce qu'enseigne toute la parole de Dieu. Et il appuie ce point en verset 13, la fin du verset 12. Il nous le rappelle comme si on avait loupé ce qu'il est en train de dire. Il dit, et il cite Malachie 1, verset 2 et 3, il dit « Selon qu'il est écrit !» Et il cite Malachie 1, 2 et 3, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Et quand Paul cite ces versets de Malachie, « Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » On ne doit pas se méprendre à ce sujet et penser que Dieu dit « J'ai vraiment aimé Jacob et j'ai aimé Ésaü un peu moins. » Parce que Malachie 1 parle de l'amour de Dieu pour Jacob qui amène les bénédictions sur ceux qui, par nature, sont des pécheurs tordus. Mais il va amener sur les autres pécheurs tordus les jugements les plus terribles. Et on voudrait reprendre Paul. Paul, bien sûr, parle de Jacob et d'Ésaü en tant que pécheurs. Il sait que les Juifs et les non-Juifs sont pécheurs. Il sait que nous sommes pécheurs. Mais on voudrait reprendre Paul et lui dire, mais Paul, il doit y avoir au moins une raison. Tu ne peux pas trouver une raison qui aurait poussé Dieu à choisir Jacob au lieu d'Ésaü. Il doit y avoir quelque chose en Jacob qui fait la différence. Mais Paul sait, si je me tenais devant lui, que si je dis ces choses, j'ai disgracié la grâce. Et la grâce n'est plus grâce. La grâce devient l'amour de Dieu plus quelque chose en moi qui déterminerait le dessein de Dieu, ce qui est bien sûr faux. Ce que Paul dit, c'est que le dessein de Dieu de choisir Jacob et de laisser Ésaü sous le jugement est entièrement une question de la grâce souveraine de Dieu, de sauver un homme et à travers lui un peuple. Parce que Paul, tout ce qu'il a dit dans cette lettre depuis le début jusqu'à ce point, c'est de démontrer qu'il n'y a rien en moi qui me qualifie pour le salut. Il n'y a rien en moi qui me qualifie pour la grâce. Jésus n'est pas mort pour moi parce qu'il y avait quelque chose de bon en moi. Jésus n'a pas regardé mon histoire personnelle en se disant « à tel âge, ce sera un candidat idéal ». Non, il n'y a rien en nous qui nous qualifie pour la grâce de Dieu. C'est une chose importante pour nous à comprendre. Et si je ne suis pas émerveillé par cela, je ne saisis pas la grandeur, la majesté de la grâce de Dieu pour moi. Si je cherche à insérer quelque chose de moi, quelque chose de mon caractère ou de mes actions pour pouvoir dire, moi je sais pourquoi Dieu m'a choisi, alors je deviens le pharisien dans le temple. Parce que je dis à Dieu, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, Luc 18, verset 11. Je te remercie parce que, voilà, ce sont les raisons pour lesquelles tu m'as choisi. Je te remercie de ce que je suis différent des autres, en particulier différent de ce publicain, dans le fond, là, qui n'arrête pas de se frapper la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Mais nous savons que c'est le publicain qui est sorti et qui savait ce que c'était la grâce de Dieu. Beaucoup de nos problèmes dans la vie chrétienne trouvent leur racine dans le fait que nous ne saisissons pas totalement cette grâce que Dieu a manifestée pour nous en Jésus-Christ. Et je vous invite à relire ou à lire ou à relire ces livres publiés par Opress. La grâce de Dieu, c'est pour la vie, la grâce aux mille facettes. Puissance grâce. Il nous parle de la merveille de la grâce de Dieu. Paul parle de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, mais il nous dirige vers le Dieu de l'histoire, le Dieu du salut, le Dieu de grâce. Et il y a une application pour nous. Si je suis chrétien ce matin, si je fais partie de cette nouvelle humanité, de ce peuple que Dieu s'est choisi, ce n'est pas parce que Dieu a vu que je serai un bon candidat. Ce n'est pas parce que Dieu a vu que ma foi aurait un bon niveau ou que ma vie serait suffisamment sainte. Non. La grâce de Dieu est pour des pécheurs. Des pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin pour être sauvés, que Dieu les sauve. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent absolument rien. Quelqu'un va dire, oui, mais Seigneur, regarde-moi, regarde les fruits de ma vie chrétienne, regarde le service que je te rends, regarde la position que j'occupe dans l'Église, regarde tout ce que je fais pour la cause de l'Évangile. Il y a là des raisons pour lesquelles tu m'as choisi dans ta grâce, que tu ne m'as pas laissé. Mais si je dis ces choses, je renverse l'Évangile sur sa tête. Parce que les fruits de l'Évangile deviennent le fondement de l'Évangile. Les évidences de la grâce deviennent les causes de la grâce, ce qui est totalement faux. Il n'y a qu'une seule cause de la grâce de Dieu dans l'élection, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et nous sommes éblouis par cette réalité, parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons même pas maîtriser, nous qui aimons contrôler les choses. Nous ne pouvons pas contrôler ces choses, cette réalité. Et c'est ce que Paul souligne, nous écrase. Cela nous écrase non pas pour que Paul abuse de nous, mais au contraire, pour que nous admirions la grâce de Dieu dans tout son éclat, que Dieu nous a aimés. Non à cause de quelque chose en nous, mais à cause de sa volonté souveraine. Le vrai problème qui doit être résolu dans mon cœur est le suivant. Est-ce que j'attribue tout mon salut à Dieu? Parce que si j'attribue une infime partie de mon salut à quelque chose en moi, le salut n'est plus par grâce. Beaucoup de personnes, quand elles sont devant le fait que rien en nous ne pousse Dieu à choisir telle personne et non une autre, ces personnes vont dire que Dieu est injuste. Mais cette réaction prouve que ce que Paul vient de dire, et c'est la question suivante à laquelle Paul va répondre à partir du verset 14. Paul ne s'attarderait pas sur cette question s'il n'y avait pas dans le cœur de l'homme ce désir de justice. Mais le cœur qui pousse ce cri que Dieu est injuste est un cœur qui ne comprendra pas l'Évangile. La seule personne qui reçoit justice dans l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus, qui est mort pour nos péchés. Nous avons besoin de miséricorde, nous avons besoin de grâce. Et Paul, en écrivant ces choses, veut nous amener à voir si nous sommes réellement la postérité d'Abraham. Verset 8, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et Paul vient éclairer cela en Galates chapitre 4, versets 22 et 23, et puis au verset 28. Verset 22, il dit, « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. » Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et puis au verset 28 de Galates 4, il dit, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Dieu a promis d'envoyer son Esprit Saint pour former un peuple issu de toutes les nations de la terre, un peuple né comme Isaac, par l'intervention de l'Esprit de Dieu, selon la promesse. Et ce peuple reconnaît que cette vie nouvelle vient entièrement de Dieu, que c'est entièrement par grâce, que c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce peuple se glorifie non pas en lui-même, mais dans le Seigneur, parce qu'il sait que tout est par grâce. Du début jusqu'à la fin. Dieu a choisi Abraham, Dieu a choisi Isaac, Dieu a choisi Jacob, Il les a choisis par grâce, non pas à cause de ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient quelque chose en eux, mais par sa souveraine grâce. Et Dieu nous choisit de la même manière, par grâce. Si j'ajoute quelque chose de moi, le salut n'est plus par grâce. Mais Dieu sauve des pécheurs, il les appelle à lui, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur condition, et il sauve, et il donne la vie par grâce. Que Dieu nous aide à méditer sur cette réalité, qu'il nous aide à comprendre, et qu'il nous aide à nous réjouir, qu'il nous ait fait grâce en Jésus-Christ, et que nous nous réjouissions en lui et en lui seul pour la grâce qu'il nous a manifestée en Christ. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.